Voici un premier rendez-vous avec l'information, avec vous, Sophie Delpont, bonjour.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le sacre de Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, va succéder aujourd'hui à la première ministre britannique Theresa May. Une nouvelle qui réjouit les partisans du Brexit, mais qui est vécue comme le scénario du pire pour les représentants des institutions européennes. Reportage et analyse à suivre.
François de Rugy s'estime blanchi par deux rapports publiés hier, l'un par Matignon, l'autre par l'Assemblée nationale.
Une semaine après sa démission, l'ancien ministre était hier sur le plateau de France 2. Nous verrons qu'il reste encore quelques interrogations avec Maxime.
À l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale, le CETA a été adopté hier, mais avec un résultat plus serré qu'espéré par la majorité.
Au total, 266 voix pour, 213 contre, jusque dans les rangs de La République En Marche, avec 74 abstentions. Selon le député Mathieu Orphelin, ancien marcheur, c'est un avertissement politique pour le gouvernement, on l'entendra. Boris Johnson sera officiellement aujourd'hui le nouveau Premier ministre britannique après sa victoire dans l'élection interne au Parti conservateur face à Jeremy Hunt hier. L'ancien maire de Londres a fondé toute sa campagne sur une promesse, réaliser le Brexit au plus tard le 31 octobre prochain, quelles que soient les conditions, avec ou sans accord négocié avec l'Union européenne. Alors comment réagissent ceux qui ont voté il y a 3 ans pour la sortie du Royaume-Uni ? Sarah Tucherer est allée dans un fief pro-Brexit au centre de l'Angleterre.
Stoke-on-Trent, 260 000 habitants à 260 km au nord de Londres, une ville connue pour sa production de poterie, qui vécut un temps de la sidérurgie et qui porte aujourd'hui le surnom de capitale du Brexit. Le 23 juin 2016, le Leave avait emporté plus de 70% des suffrages. Cet électeur, membre des Tories, est ravi de la victoire de Boris Johnson, qu'il a soutenu lors du scrutin interne au parti.
C'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Après 3 années de bazar, il faut que le Brexit se fasse, peu importe les conditions.
Mais ici, on ne peut pas parler d'euphorie, même parmi ceux qui ont voté pour le Brexit. C'est le cas de Tom, ce retraité a quelques doutes sur la personnalité du nouveau locataire du 10 Downing Street.
Il fait le show, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de fond derrière ça. D'autres personnes auraient été plus compétentes, mais c'est comme ça. Je ne suis pas sûr qu'il soit le meilleur pour mener à terme le Brexit, mais peut-être qu'il saura s'entourer de bons ministres.
Et puis il y a ceux qui, comme Jane, ont déserté les isoloirs. Cette mère de 3 enfants n'a pas voté lors du référendum de 2016. Pour ou contre le Brexit, elle n'a pas vraiment d'opinion. Cette travailleuse dans le social espère simplement que les choses vont aller mieux avec ce nouveau Premier ministre.
Moi j'ai de la chance, j'ai un travail, mes enfants aussi. Mais je connais plein de personnes, des familles qui sont sans emploi. J'ai connu ça, j'ai aussi eu des moments difficiles.
Dans son discours de vainqueur ce midi, Boris Johnson a promis de faire avancer le pays en améliorant notamment l'éducation. Il n'a pas précisé comment il financerait ces mesures.
À Bruxelles, les responsables des institutions européennes ont fait le service minimum à l'annonce de la désignation de l'ancien maire de Londres. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, affirme vouloir travailler de la meilleure façon possible avec lui. Ursula von der Leyen, qui va lui succéder le 1er novembre prochain, veut bâtir une bonne relation avec Boris Johnson, selon ses mots. Michel Barnier, quant à lui, veut travailler de façon constructive pour la ratification de l'accord de sortie. Mais derrière les apparences, pour eux, c'est bien le scénario du pire qui se réalise à Bruxelles. Pierre Benazé.
Pour les Européens, l'arrivée de Boris Johnson à Downing Street, c'est le scénario catastrophe. Jusqu'à la démission de Theresa May, cette éventualité était même ici une plaisanterie de mauvais goût. Boris Johnson traîne derrière lui une réputation sulfureuse, d'abord comme correspondant de presse à Bruxelles, inventeur d'euromythes, des affabulations sur d'imaginaires normes européennes de courbure des bananes ou de taille des préservatifs. Boris Johnson a aussi la réputation récente d'un ministre des Affaires étrangères incohérent et brouillon, et son image pâtit aussi de déclarations à l'emporte-pièce, comme sa comparaison entre l'UE et le Troisième Reich. Il n'est pas considéré ici comme europhobe, on estime plutôt qu'il peut facilement changer d'avis sur tous les sujets. Mais la grande crainte des Européens, c'est surtout qu'il entraîne son pays vers un Brexit sans accord le 31 octobre, ce qui signifierait une absence de garantie pour les droits des citoyens, une situation intenable à la frontière irlandaise et une absence de règlement financier. La perspective de devoir négocier avec Boris Johnson la future relation euro-britannique donne déjà des frissons aux responsables européens. Ils espèrent pour l'instant lui faire entendre que s'il n'accepte pas de régler les dettes du Royaume-Uni envers l'UE, il lui sera impossible de négocier un accord de libre-échange euro-britannique.
Pierre Benazé à Bruxelles pour France Culture. Nissan s'apprête à supprimer plus de 10 000 emplois dans le monde. Ce plan qui doit être officialisé demain, en même temps que les résultats financiers du constructeur automobile japonais, inclut les 4 000 800 suppressions d'emplois déjà annoncées en mai dernier et toucherait principalement les usines hors du Japon, les moins utilisées. Nissan, détenue à 43% par Renault, enregistrerait actuellement sa plus mauvaise performance financière en 11 ans, avec une chute de son bénéfice d'exploitation de 28%.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont en France. François de Rugy a lancé la contre-offensive hier soir sur le plateau du journal de 20h sur France 2.
Oui, une semaine après sa démission, l'ancien ministre de la Transition écologique a voulu se présenter en homme blanchi face aux accusations portées par Mediapart sur la rénovation de son appartement de fonction et plusieurs dîners fastueux d'ordre privé payés avec l'argent public. Maxime Fayolle, bonjour.
Bonjour.
Pour appuyer son propos, il s'est donc appuyé sur deux rapports publiés hier, des rapports qui tentent de disculper l'ancien ministre sans toutefois y parvenir totalement, Maxime.
Oui, le premier concerne le logement de fonction de François de Rugy, l'hôtel de Roquelaure. L'ancien ministre y a réalisé plus de 64 000 euros de travaux. Ils sont justifiés car la dernière grande rénovation date de 2003 selon le rapport. Mais celui-ci ne remplit pas l'un des objectifs qu'il affiche pourtant dès les premières pages. Juger si François de Rugy a respecté ou non le principe d'exemplarité imposé par Édouard Philippe dans une circulaire de 2017. Le texte indiquait à l'époque que l'utilisation des deniers publics doit être limitée au strict accomplissement de la mission ministérielle. Aucune réponse donc. Néanmoins, la rapporteure souligne le coût excessif du dressing du couple Rugy. 17 000 euros pour une commande réalisée dans l'urgence. Idem pour la peinture de moulure au plafond. Autre rapport qui tente de dédouaner François de Rugy, il concerne les dîners pointés par Mediapart. L'Assemblée nationale précise que l'ancien président n'a commis aucune irrégularité ni enfreint aucune règle, sauf en ce qui concerne trois dîners qui n'auraient pas dû être payés sur fonds publics. Coût total, selon le Canard enchaîné, 2000 euros que l'ancien ministre s'est engagé à rembourser.
Et dans la foulée de ces rapports, Maxime, le gouvernement a d'ailleurs durci les règles en vigueur.
Oui, une nouvelle circulaire est parue sur l'exemplarité des membres du gouvernement. Édouard Philippe pointe particulièrement les travaux concernant les logements de fonction des ministres. S'ils dépassent 20 000 euros, ils devront impérativement être soumis à l'approbation du secrétariat général du gouvernement. Le Premier ministre rappelle le devoir d'exemplarité et de sobriété dans ces domaines. Autre changement, à l'Assemblée nationale cette fois, le président Richard Ferrand va créer un groupe de travail pour renforcer les procédures budgétaires de la présidence de l'Assemblée. Des propositions seront rendues à l'automne et mises en place dès l'année prochaine.
Merci Maxime Fayolle. Le CETA adopté hier au Palais Bourbon à l'Assemblée nationale, 266 députés ont voté pour, 213 ont voté contre, 74 se sont abstenus pour la ratification du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Mais au sein même de la majorité, 58 députés se sont abstenus et 11 ont voté contre, 9 députés LREM et 2 Modem. Le texte a donc été voté de justesse, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour le député du Maine-et-Loire, Mathieu Orphelin, et proche de Nicolas Hulot, qui a quitté le groupe majoritaire en février dernier et qui appelait à voter contre.
C'est vraiment une toute petite majorité. Je crois que c'est un avertissement politique extrêmement fort pour le gouvernement. Si les prochains accords ne sont pas plus respectueux de la biodiversité, plus respectueux du climat, plus respectueux de l'agriculture que nous voulons, plus respectueux de nos agriculteurs, ils ne passeront pas ces prochains accords. Là, on a eu sur l'accord que certains ont essayé de nous vendre comme l'accord parfait, etc., qui est loin d'être parfait, mais on voit que là, avec toutes les questions qui restaient ouvertes sur l'effectivité du veto climatique, sur le problème des farines animales, etc., eh bien, du coup, les députés ont voté en conscience et ça donne une toute petite majorité de 50 voix. C'est très bien que, effectivement, sur les aspects d'écologie, d'agriculture, etc., les députés de la majorité s'affirment avec leur conviction plutôt que simplement le respect des consignes de vote. C'est très bien. Il ne s'agit pas de trouver des frondeurs ou autres. Il s'agit de dire que là, vraiment, c'est un vote où chacun s'est exprimé avec son analyse, avec ses tripes, avec ses convictions. C'est ça la politique, c'est pas d'appliquer des consignes de vote.
Le député Mathieu Orphelin, micro de Stéphane Robert. La PMA sur la table du Conseil des ministres ce matin, la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, qu'elles soient célibataires ou lesbiennes en couple, la mesure la plus controversée est au cœur de la révision des lois bioéthiques. Les lois bioéthiques, jusqu'ici seuls les couples hétérosexuels ont accès à la PMA. Le débat est prévu à la rentrée à l'Assemblée nationale, on y reviendra à 8h sur France Culture. En France, c'est un record. 80 départements en alerte orange à la canicule. Aujourd'hui, on devrait compter en moyenne ce matin 27 à 32 degrés, jusqu'à 40 degrés même cet après-midi sur le nord-est. Dans la matinée, 31 degrés à Limoges, 32 degrés à Lyon et à Paris, 38 degrés sur l'Île-de-France dans l'après-midi. Seules exceptions, la Bretagne et le littoral normand avec en moyenne 20 à 25 degrés sur la journée. Le pourtour méditerranéen restera, lui, entre 28 et 32 degrés.